If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Je le dis dans mon spectacle, j'ai failli sauter du quatrième étage quand même. Et c'est pas genre je me suis dit tiens je sauterai du quatrième étage, sinon je suis passée de l'autre côté du balcon et j'étais à 10 doigts de crever quoi. Donc,
Et c'est ton fils, c'est ça qui te passe?
Ouais, c'est mon fils qui me passe un coup de téléphone à ce moment-là. Les enfants ils viennent toujours bouleverser vos plans, c'est vraiment des petites merdes. Il a appelé à ce moment-là quoi. Et sa voix, l'idée de plus jamais entendre, c'était ça, je l'entendais avec son petit halo, sa petite voix de merde là, l'idée de plus entendre sa voix, de plus l'entendre me raconter ses histoires, l'idée de plus le voir, c'est impossible, c'est impossible, je suis tellement pas prête à plus voir mon fils quoi.
Exécuté par
qui?
Fabrice Florent.
Bonjour, bonsoir, bon après-midi à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Histoire de succès. Chaque jeudi, à partir de 6h du matin, je retrace avec une ou un invité son parcours de vie qui l'a amené à son succès, depuis la petite enfance jusqu'à aujourd'hui. Je suis Fabrice Florent, dans la vie je fais des podcasts d'interviews et de discussions et je crée des contenus. Si vous aimez ce podcast d'ailleurs, allez écouter la bande-annonce pour en découvrir plus sur moi et sur mes autres podcasts. N'oubliez pas de vous abonner sur votre appli de podcast préférée, de mettre un cool commentaire et 5 étoiles au podcast sur Apple Podcasts par exemple, et de partager cet épisode autour de vous s'il vous a plu, c'est le meilleur moyen de m'aider si vous aimez mon travail. Un grand merci à vous et bonne écoute. Florence, quel bonheur de t'avoir.
Tu m'étonnes.
Quel bonheur d'être toi, c'est ça?
Exactement.
Je suis fabuleuse.
Ben oui, voilà, merci de me recevoir.
Florence, on va parler de ton histoire. Tu es humoriste belge.
Tout à fait.
C'est l'un des trucs qui te caractérise notamment. Tu as commencé ta carrière en Belgique. Et aujourd'hui, tu arrives petit à petit dans les médias français, dans les salles françaises, etc. etc.
Le grand remplacement, c'est nous, c'est la Belgique. Voilà.
J'ai vu ton spectacle il y a quelques mois maintenant d'ailleurs. C'était fabuleux, vraiment.
Merci.
On va parler de tout ce que tu racontes dedans notamment. Mais la première question que je pose à tous mes invités, c'est Florence, à quoi tu ressemblais quand tu avais 7-8 ans?
Alors, j'avais plutôt un look de ce qu'on appelait bêtement à l'époque garçon manqué. J'étais très branchée salopette et pantalon. J'avais des cheveux assez courts et j'étais très très serdaigle. J'étais très intello. Ouais, très intello. Je lisais énormément de choses. J'étais plutôt une gamine solitaire. J'étais plutôt dans mon coin. Voilà. Donc, pas vraiment bêcheuse. J'étais plutôt une gamine assez discrète et j'aimais beaucoup l'accompagner des adultes. Voilà.
Ok. Comment ça se passait à l'école pour toi?
C'était l'enfer, c'est-à-dire que...
Ça commence bien, bonjour, bienvenue dans le podcast de Florence.
Voilà, bah non, moi à l'école ça s'est toujours très mal passé, hein. J'ai beaucoup souffert de harcèlement scolaire parce que j'étais un peu différente, j'étais un peu à l'ouest et du coup j'ai beaucoup changé d'école parce que j'ai eu beaucoup de problèmes avec les autres élèves, beaucoup de problèmes pour m'intégrer, etc. En fait, non, c'est pas moi qui ai de problèmes à m'intégrer, c'est les autres qui avaient des problèmes pour se comporter comme des êtres humains décents.
C'est ça qui est terrible, voilà. C'est qu'en général, quand c'est toi qui changes d'école, alors que ça serait plutôt aux autres de...
Après, c'est difficile de faire changer 120 personnes d'école et de me laisser toute seule dans l'école. Mais je trouve que, ouais, la prochaine fois qu'il y a un cas de harcèlement scolaire, je trouve qu'on doit faire changer tous ceux qui harcèlent d'école. Et la victime peut rester là. Donc, ouais, non, c'était pas cool, l'école.
Ok.
Pas...
Est-ce qu'il y a un moment donné où... Qu'est-ce qu'ils faisaient tes parents comme métier? Qu'est-ce qu'ils font comme parents?
Alors, ma mère, elle est traductrice. Elle traduit l'anglais, néerlandais. Et mon père, lui, de formation, il est photographe. Un très bon photographe. Et maintenant, il est un peu comme Chandler dans Friends. C'est-à-dire que personne ne sait exactement ce qu'il fait comme métier. Je sais que c'est un truc en rapport avec... il est directeur de vente dans une société. Je sais pas. Papa, je t'aime, mais je sais toujours pas ce que tu fais comme métier. Donc, depuis que je suis petite, sur les fiches à l'école, quand on me demandait de dire ce qu'il faisait, je répondais qu'il était photographe. Il était pas du tout photographe de métier, mais je savais pas commettre, alors je mettais ça.
Et tu lui as jamais demandé, là, aujourd'hui que t'es adulte?
Il faudrait que.
Qu'est-ce que tu fais comme métier?
Que je lui pose la question. Mais c'est ça, je crois qu'il doit être directeur de vente ou.
Il a un vrai métier dans un bureau, quoi, c'est ça?
Et il est souvent en avion, donc. Putain, j'ai l'air d'avoir 8 ans. Ça me rappelle, un jour, on devait faire notre arbre généalogique en classe, et je me souvenais plus du nom de mon grand-père, du prénom de mon grand-père. Alors, j'avais mis le nom de mon pote d'à côté, qui s'appelait Bassem. Et donc, du côté de ma mère, c'est genre des Flamands, tu vois. Alors, ouais. Ils avaient tous des noms, genre Yann, Pete, et puis il y avait Bassem. Voilà, je suis restée dans naturel très efficace, moi, comme.
Oui, c'est comme ça. C'est.
Donc non, je sais pas. Mais il, voilà, j'espère que ça se passe bien pour lui et tout. Mais je sais pas ce qu'il fait comme métier. Il part et il va voir des gens et il vend des trucs, je crois.
Vend des trucs.
Je crois.
Ok. Et sur cette. Sur cette base-là, parce qu'en fait, toi, tu fais quoi comme étude après?
Alors moi, je ne fais pas des études tout de suite. Hein, donc je termine les secondaires. Donc je sors du lycée.
C'est l'équivalent du lycée.
Ouais, c'est ça. L'école secondaire en Belgique. J'ai l'équivalent du bac en Belgique. Et donc je m'inscris à l'UNIF. Et à l'UNIF, on a un folklore que vous n'avez pas en France. Enfin, si vous avez les faluchards et tout ça, c'est un folklore estudiantin assez présent. Ouais. Et je ne sais pas pourquoi. J'ai cette excellente idée de me dire, je vais faire mon baptême. C'est le baptême universitaire, qui sont une série d'épreuves où à la fin, si tu les réussis, bah, tu t'intègres dans ce qu'on appelle les cercles. Donc, ce sont des, si tu veux, des espèces de groupes d'étudiants qui se rassemblent en fonction des filières d'études, etc. Et c'est un peu une épreuve d'intégration. Et je ne sais pas. Il y avait des signes pourtant dans ma vie que j'étais pas faite pour m'intégrer dans des trucs. Quand même. Et j'ai dû tous les louper parce que je me suis dit, eh ben, je vais faire ça. Et ça a été une catastrophe. On a été vraiment. Parce que c'est du bizutage, hein, mais ouais. T'es censé quand même te marrer un peu. Bon, tu te prends des œufs, de la farine sur la gueule, tu manges des trucs dégueulasses, tu bois, tu fais des épreuves à la con, et voilà. Mais t'es quand même censé t'amuser un peu. Et moi, ça a vraiment. Ça s'est pas bien passé du tout. J'avais un petit problème avec l'autorité déjà. Voilà.
Oui, donc déjà de base, c'est raté.
Voilà, de base, c'était.
Donc est-ce que t'étais la seule qui se rebellait contre.
Ouais. Hein.
Ok.
Et donc j'ai fini par.
T'étais mal vue dans ce cas-là. T'es là. Ouais. Bon, en fait, arrête de casser le délire.
Mais oui, mais t'as le sergent Hartmann qui est là et qui te gueule dessus et moi j'arrivais pas, quoi. Enfin, c'était pas.
Le sergent.
Tu vois, dans Full Metal Jacket, là. Voilà. Et moi, j'arrivais pas, quoi. Donc, non, ça s'est pas bien passé. Mais il en a résulté un petit traumatisme, rien de. Mais qui a fait que j'ai arrêté mes études. Et puis.
Un petit traumatisme.
Oui, pas énorme, mais voilà. Et puis, j'ai attendu un an. J'ai repris. J'ai tenté de retourner à l'UNIF une deuxième fois. Là, j'avais un chagrin d'amour énorme. Et je me suis dit, non, je vais pas. Je vais arrêter parce que je l'aime. Ah. C'est vraiment nul. Et puis là, je me suis dit, je vais partir un an aux États-Unis comme jeune fille au pair.
Ok.
Sauf que je passe devant un magasin qui, à l'époque, s'appelait Games Workshop. Vous en aviez ici aussi, tout à fait, de figurines Warhammer, de figurines à peindre, à collectionner, faire des armées.
T'es une geek.
Ouais.
C'est vrai. Tu faisais tes figurines.
Et je me dis, mais je veux travailler là, en fait. Et je me fais engager, donc, à 19 ans dans ce magasin. Il faut savoir, à l'époque, il y avait, je crois, 40...
Là, t'étais à Bruxelles.
Ouais, c'était à Bruxelles. Okay, mais c'était la société était une société, enfin, avait une filière française, ouais. Dont dépendaient les magasins de la Belgique. Et donc, je deviens manager du magasin, je sais pas comment. Et je me retrouve...
Peut-être parce que t'es brillante.
Et c'est gentil, mais je pense pas. et je me retrouve...
Je crois vraiment que t'es brillante.
Je suis la seule meuf de la boîte. Donc, sur 42 magasins en France, il n'y a pas une seule fille, je suis la seule. Et en plus, je me retrouve manager. Et donc je fais des petites figurines et tout et c'est cool, quoi, tu vois. Enfin, j'ai une super armée que je peins, je collectionne, je m'éclate.
On est pour l'instant encore très loin du monde de la scène.
Ah non, mais complètement. Et je et puis je tombe enceinte. J'accouche à l'âge de 23 ans. Et Et là, c'est une autre réalité qui commence, parce que...
Mais tu tombes enceinte, c'était un projet de vie de...
Alors, je savais, hein, quand j'ai rencontré le père de mon fils, je savais, il n'y avait pas l'ombre d'un doute qu'un jour cet homme-là serait le père de mon enfant. Ah. Ce que je savais aussi, c'est que je n'allais pas passer ma vie avec lui, parce que je l'aime de tout mon cœur, mais il est insupportable, il est invivable.
T'en parles un peu dans ton spectacle.
Mais je l'adore, vraiment. Ben
c'est vraiment la meilleure décision de vie de faire... un enfant avec quelqu'un que t'adores, mais... même si tu restes pas toute,
ouais,
toute ta
voilà,
vie.
Que il faut. J'aurais considéré ça comme un échec si j'en étais venue à détester 50% de mon enfant, c'est chaud quand même, tu vois. Et donc,
c'est un très bon tips de vie, je trouve.
Donc c'est vraiment, j'ai beaucoup de respect pour lui et il est sacré, quoi. Pour toujours, ce sera le père de mon enfant et je serai toujours là pour lui, même si notre histoire, il y a eu des moments compliqués et tout. Donc voilà, et puis donc je me rends compte... En 2012, que ma vie est plus exactement...
Tu voulais faire un enfant ? C'était vraiment un truc pour toi ?
Alors en fait, on était bourrés. Non, c'est vrai. Mon fils connaît cette histoire.
Coucou le fiston.
On était bourrés, on est rentrés du resto et on s'est dit, on va faire un enfant. Et voilà. Et j'étais très contente de l'avoir jeune. Je savais pas que je voulais un enfant jeune, mais avec le recul, maintenant, je me rends compte que c'est bien de faire un enfant jeune. Parce que maintenant, t'imagines, si j'avais un petit bébé et tout, enfin, courir partout, je pourrais plus, quoi.
C'était un fiston qui a 10 ans, là.
12, il va en avoir 12 déjà. Donc,
Ah oui.
Et donc voilà, mais je me rends compte que ma vie est plus exactement... ce que je peux bosser qu'à mi-temps dans ce magasin, parce que... je dois m'occuper de mon fils, la crèche ça coûte un rein, ça se passe plus très bien avec le père de mon fils, mais en même temps si je le quitte, enfin comment je fais, enfin tout ça est très compliqué, et donc je quitte le père de mon fils, je me dis bah je vais reprendre des études, et donc en 2012 je reprends des études, donc à l'âge de 25 ans, c'est possible ?
C'est possible.
Oui,
hein.
C'est ça. À 25 ans, je décide de reprendre des études. Et là, je reprends...
35, là,
c'est ça. Et là, je reprends des études de langue. Et parce que j'ai la chance, comme c'est un métier à pénurie, prof de langue en Belgique, tu peux reprendre des études avec quand même le chômage. Donc le chômage te paye pour faire des études, pour être... Et là, c'est une réussite. Je sors genre la première de ma promo avec la plus grande distinction. Donc en Belgique, c'est le quand vous avez aussi en France des mentions.
Genre oui, il y a des mentions.
Voilà. Hein. Mais moi, je dis genre la chef de toutes les mentions.
Yes. Ouais,
moi, je l'ai. Et voilà.
Mais c'est quoi la différence entre le moment où t'aimes pas l'école, enfin si en fait le moment où t'aimais pas l'école, c'est juste que tu te faisais bolos par le reste des gamins, c'est ça. Et là, t'as trouvé ta Tu t'étais affirmé entre temps ? Tu mettais des coups de tête ?
Non. Enfin, j'ai développé une répartie sale. Vraiment sale, parce qu'il a fallu se défendre. Et je pensais que je m'étais affirmée. Et je pensais que j'étais plus une victime. Et tout ça était encore très très faux. En fait, j'avais juste accepté l'idée qu'on me traite mal. Du coup, je me faisais maltraiter. Je disais, bon, bah, c'est comme ça, quoi. J'avais juste intégré l'idée que j'étais bizarre et que c'est pour ça que ça suscitait autant de problèmes. Donc non, le retour a été à l'école, même en tant que prof, a été une catastrophe.
Parce que t'es devenu prof.
Ouais, parce que je suis devenu prof. Mais à la fois, les équipes de profs, c'est chaud, quoi. Finalement, c'est s'intégrer de nouveau dans une équipe et c'était pas fait pour moi. Et ce qui était encore plus difficile, c'est que moi, j'adorais mes élèves. Et je me voyais obligée de participer à un système qui les détruisait, quoi. Parce que l'école, comme on le voit aujourd'hui, la démocratisation de l'école, ça a été dans les années 70, ça a été une... 70, pardon, ça a été une...
Tu peux dire 70, les gens comprennent. Hein,
ouais, ouais. Ça a été une excellente chose pour notre société. Et à la fois, on ne s'est pas donné les moyens de le faire. Et donc maintenant, vous voyez des profs qui ne savent pas... Il faut voir une réunion de profs, hein. Une réunion de profs, ils tiennent pas 50 minutes. Il y en a un qui fait un avion en papier, l'autre qui écrit. Ils écoutent pas, ils rigolent entre eux. Le proviseur ou le préfet ou le directeur doit les rappeler 15 fois à l'ordre parce que ça papote. Et après, c'est eux qui en réunion disent mais vous rendez compte, les gamins, ils restent 6-8 heures par jour sur le banc et ils sont pas attentifs. Non, ils sont pas attentifs en fait, parce que personne n'a envie de rester 8 heures par jour assis sur un banc. La seule période où on te demande de rester 8 heures par jour assis sur un putain de banc à écouter ce qu'on te raconte, c'est l'école. Après, on te le fait plus vif parce que c'est inhumain en fait. Et on demande à des gamins de faire ça, et t'as des trucs absurdes, genre, moi on m'a engueulé parce que dans ma classe, les enfants devaient pas demander pour se lever et aller jeter un papier à la poubelle. Ben non, en fait, tu vois, oui. Tu vas pas déranger mon cours pour me poser une question à laquelle, de toute façon, je vais te répondre oui, t'as un papier, ben, tu prends ton papier, tu vas le jeter, tu me casses pas les couilles, en fait. Ouais. Moi, j'avais des gamins qui étaient hyperactifs. Ben, tu t'es hyperactif, et à un moment, tu veux te lever et effacer le tableau ou faire trois tours dans la salle, ben, enfin, dans la classe, vas-y, fais-le. Mais perturbe pas mon cours. Et si d'emblée, on part du principe... Ah, ils peuvent pas boire pendant le cours. Génial. Ils peuvent pas aller faire pipi pendant le cours. T'as déjà essayé de te concentrer sur un apprentissage pendant que t'as la bouche sèche ou une envie de pisser? Et non. Et donc, je trouve que les adultes exigent des trucs de la part d'adolescents qui, en plus, les adultes sont encore... voilà, leur corps est fini et tout. Les adolescents, ils sont en proie à une putain de guerre hormonale, quoi. Dans leur corps, ils ont une fatigue qui est épouvantable parce que c'est éprouvant, quoi, de grandir physiquement. C'est la puberté, tout se met en place. Et on leur demande des trucs qu'ils ne sont pas capables de faire. On le sait, on regarde un peu les biorhythmes, etc. On sait que commencer les cours à 8h du matin, ça n'a aucun sens. Et c'est des heures perdues. Et en plus, la manière dont on enseigne, qui est juste vieillissante et qui est une catastrophe. En Belgique, on a une culture du redoublement qui est épouvantable, okay. Alors que toutes les études menées sur le redoublement ont prouvé que c'était nocif pour la suite du parcours scolaire. Mais on continue de faire ça parce qu'on a toujours fait comme ça. Mais moi, j'en avais ras le cul et je souffrais trop. Avec le recul, je ne ferais plus des études de prof. Avec le recul, je deviendrais éducatrice, en fait.
Tu veux dire...
Comment vous appelez ça en Belgique? Genre, ouais, pion, quoi.
Ouais, pion, ah, ok.
Mais pion, pas pion... au sens péjoratif du terme, quoi. Je voudrais juste être un lien entre les élèves et les profs, entre les élèves et l'école, et avoir une écoute envers ces gamins et pouvoir comprendre leur révolte et pas les considérer comme des putains de robots dans un système qui devrait les faire grandir et pas... Tout ce que ça fait grandir, c'est la haine du système, en fait. Donc non, c'est... Je pouvais plus... J'aimais trop mes gamins pour ça. Super, vous en captez un qui est en train de brosser les cours. Vous savez que son père lui tape sur la gueule. Et il y a des profs qui n'hésitent pas à quand même appeler le père pour dire qu'il a brossé les cours. Et vous savez que le gamin, il se fait péter la gueule, quoi. Moi, je peux plus. Hein. Non, ça, c'était pas possible. J'étais vraiment... Et il y a des profs tellement géniaux et tellement méritants qui sont tellement plus courageux que moi d'avoir... Mais moi, je suis trop frontale, en fait, pour... Mais c'est vrai, je suis trop... Je pense que les vrais gens intelligents et les vrais gens qui sauvent le système, c'est des gens qui sont capables d'y évoluer tout en tordant
petit à petit.
Moi pas, moi j'arrive pas à me confronter à tout ça, je sais pas me gérer, je sais pas gérer mes émotions, ma colère et tout. Et il y a des profs vraiment merveilleux et qui eux sont les vrais héros et qui devraient être payés mais comme des stars de foot, quoi.
Ouais.
Ça fait... C'est chiant ce que je raconte, je suis désolée.
C'est pas du tout chiant. Pourquoi tu dis que c'est chiant?
Parce que je pense que personne n'en a rien à foutre de mes pensées sur le système scolaire. Même,
non, je trouve que c'est... Non, c'est l'école et... Bah, t'as raison, en fait. L'école, c'est l'endroit où on apprend, où on fait apprendre les gamins. Et en fait, le truc est déficient aussi parce que les profs ne sont pas considérés.
Alors que c'est...
On a 10 piges d'écart, toi et moi, mais moi, à l'époque, les profs, ils étaient au moins considérés parce que ils n'étaient pas très bien payés, mais ils étaient considérés parce que ils étaient des intellectuels, quoi. Tu vois. Ouais. Aujourd'hui, j'ai l'impression que même ça, on leur a enlevé, en fait.
Mais au-delà d'être des intellectuels, ça doit être des pédagogues, quoi. Ouais. Et
je veux dire socialement, tu vois, c'était un peu respecté.
Oui, bien sûr. Non. Et là aujourd'hui, ça l'est plus du tout. Alors que on est quand même sur la base, c'est-à-dire si on faisait des maisons comme on fait des élèves, la charpente de la maison, elle serait en barbapapa, quoi. Ce serait une catastrophe. Enfin, on faisait des maisons plutôt comme on fait des citoyens, parce que c'est ça, l'école, ça doit être le premier... le premier... Ouais, c'est les briques, enfin, c'est vraiment les fondations de la maison, quoi. Et moi qui suis convaincue que le remède à tous les maux de la terre, c'est l'éducation, ça me rend dingue de voir que... Là, voilà, on a seulement maintenant commencé à donner des cours d'éducation à la citoyenneté dans les écoles en Belgique, quoi. Ce qui, pendant très longtemps en Belgique, s'est appelé le cours de rien. Parce qu'au départ, on ne savait pas ce qu'il y avait dedans. Il n'y avait pas de programme pour ce cours. Et donc, c'était la blague en Belgique. Ça s'appelait le cours de rien. Alors que c'est tellement essentiel. Ouais. Enfin, voilà. Donc, non, c'est une catastrophe sur l'école.
Tu fais ça jusque quand, à peu près, ta vie?
Alors, je fais ça... Donc, je commence en 2015. Ça... Et en fait, c'est très compliqué parce que 2015, je suis dans une école à pédagogie active. Je commence en septembre 2015, qui est plutôt cool. Mais en même temps, je suis en train d'essayer de faire un deuxième bébé avec mon compagnon de l'époque. Et mon compagnon de l'époque est stérile. Donc, on passe par des procédures de PMA, etc., qui sont très, très difficiles. Et donc, en avril... Enfin, de septembre 2015 jusqu'en avril, je bosse dans cette école. Mais c'est compliqué parce que dès 2016, dès mars 2016, je fais une première scène d'humour.
Oui, c'est ça. Mais voilà. C'est quoi le... Quel est le pont?
Le pont, c'est un humoriste belgo-québécois que j'adore, qui s'appelle Dan Gagnon.
Ah, oui. Je vous invite à découvrir. Hein, si
ouais,
vous
vraiment.
Pas. Ouais.
Et je le rencontre. Et Dan...
Mais cette... comment tu le rencontres? C'était tes profs. Quel est le...
Alors... Quand j'avais 18-19 ans, ouais. Y a un pote qui bossait sur Énergie et qui m'a dit « Oh, il nous manque une standardiste, est-ce que tu veux venir ?» Ce qui était une catastrophe, parce que déjà, en tant qu'autiste, je déteste le téléphone. Vraiment, c'est très difficile, je sais jamais quand c'est à moi de parler et tout. J'ose pas parler aux gens, j'ai peur d'avoir l'air conne, j'ose pas appuyer sur les touches. Donc bref, je dis oui.
Parce que t'aimes bien te mettre voilà. dans des situations.
C'est ça, voilà. Et dans cette émission, il y a un animateur qui s'appelle Walid et le co-animateur est Dan Gagnon. Mais il me calcule pas plus que ça, je suis juste une énième standardiste et tout ça. Et des années après, je me dis, donc fin 2015, je me dis, tiens, c'est marrant, qu'est-ce qui devient ? Et je vais voir sur Facebook, et je sais pas pourquoi, parce qu'on s'est pas parlé, rien du tout. Je vais voir sur Facebook. Et j'appuie, sans faire exprès pour le coup, sur « Ajouter en ami ». Donc, je veux pas faire la groupie, donc j'envoie un message en disant « Écoute, je suis désolée, je voulais voir ce que tu devenais, et enfin, tu te souviens pas de moi, j'étais standardiste, je voulais voir ce que tu devenais, j'ai appuyé sur « Ajouter en ami », je dis « N'hésite pas à me supprimer », tu vois. Et du coup, évidemment, il se marre, et on commence à discuter. Et là, Dan me dit « Mais t'es drôle, en fait ». Et on discute. Et Dan, c'est la première personne qui voit exactement qui je suis, quoi. Et sa rencontre me bouleverse. Et pas du tout amoureuse, pas du tout sexuelle, rien. J'ai couché avec sa femme, mais pas avec lui.
C'est un peu mentor, quoi, c'est ça.
Il y a un truc extraordinaire qui se passe où je me rends compte. Enfin, c'est plus possible. Il a allumé une lumière. Il a jeté la lumière sur un truc dans ma vie que j'ignorais depuis des années et que je ne peux plus ignorer.
Que tu es drôle.
Mais que je suis pas moi, en fait, que tout ce que je vis là, c'est pas moi, c'est moi qui fais semblant d'être moi et qui ai intégré que j'étais bizarre et que le meilleur intérêt, c'était fermer ma gueule et faire semblant. Et d'un coup, Dan voit qui je suis pour de vrai et en plus me dit, mais c'est trop bien ce que t'es pour de vrai. Et donc, il allume cette lumière-là et il me dit, mais viens travailler pour mon émission. Il y a un talk show à l'époque sur la RTBF, donc le service public belge, à la télé. Et je commence à bosser avec lui et c'est très frustrant.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Parce que j'écris pour lui et je me rends compte que j'ai pas envie d'écrire pour quelqu'un d'autre. Et donc, en mars 2016, j'écris mon premier sketch. Le lendemain, il y a les attentats du métro en Belgique, à Bruxelles. Donc, très très bizarre. Et je joue encore 2-3 scènes ouvertes, donc vraiment des petits plateaux comme ça, d'artistes débutants. Et à chaque fois, il y a cette impression le lendemain de devoir revenir à l'école et de me sentir de plus en plus coupée en deux. Où je me dis, il y a 7 mois sur scène qui suis épanouie, qui... C'est pas encore bon ce que je fais, c'est pas grave, mais il y a un truc...
T'es à ta place, quoi.
Ouais, c'est ça. Et revenir dans cette salle d'épreuve, c'est me faire une violence. Bon, tout est relatif, hein, d'accord. Je suis pas ukrainienne sous les bombes, hein, mais c'est violence, quoi.
Bah oui. C'est pas parce que tu vis une violence que t'es obligé de te relativiser par rapport à la violence des autres.
Hein. J'arrive de moins en moins à garder mon masque, quoi. Mon masque me fait mal, me gêne. Ça fait des années que je le porte, donc j'avais l'impression de plus le sentir, mais j'arrive plus à faire semblant chez moi, j'arrive plus à faire semblant au boulot, donc je suis de plus en plus coupée en deux. En juin, le 4 juin 2016, je fais la première partie de Guillermo Guise. C'est la première fois que je fais une première partie.
Mais pareil, comment tu le rencontres, Guillermo ?
Mais Guillermo, je le rencontre parce qu'il bossait aussi sur le service public.
Ah, ok. Et donc, tu te fais des contacts là-bas aussi.
Voilà, c'est comme ça. Et là aussi, il se passe un truc, quoi. Guillermo me dit, mais c'est bien ce que tu fais. Et j'arrive plus. C'est fini, j'ai pas de retour en arrière à ce moment-là. Et puis.
Mais c'est pas. T'as pas de métier pour l'instant. C'est-à-dire que c'est pas un gagne-pain, c'est juste.
J'ai rien. Et là, en septembre 2016, donc je fais cette première partie de Guillermo. Et pendant juillet-août 2016, je joue plus du tout, je fais plus rien du tout. Et septembre 2016, il y a Guillermo et Laurence Bibot qui s'associent ensemble, qui font un spectacle au Kings of Comedy Club. Et on me propose de venir faire la première partie. Alors évidemment, j'y vais, je suis genre honorée, quoi. J'ai fait 4 scènes là. Donc,
c'est ouf, hein?
Ouais, 4 scènes. J'ai fait 3 scènes ouvertes et la première partie de Guy en juin. Et donc j'arrive dans cette salle. Et dans la salle, comme c'est Guillermo et Laurence Bibot, il y a beaucoup de gens du service public belge qui sont.
Désolé, mais si vous entendez du bruit, on est dans un resto, je préfère le dire.
Et donc il y a beaucoup de gens du service public belge qui sont là dans cette salle, dont des personnes qui bossent à la radio, sur la première, qui est aussi la radio sur laquelle Guillermo a commencé et tout ça. Et on me dit « Ah, mais on n'a pas assez de chroniqueuses-filles, c'est drôle ce que tu fais, viens. » Et c'est comme ça que je commence la radio en octobre 2016. Et donc, je continue comme ça à faire mon petit bail de mon côté. Je fais mon émission de radio où je suis chroniqueuse, donc j'affine un peu ma plume. Je recommence à faire des petits plateaux d'humour à gauche, à droite, beaucoup au Kings of Comedy Club. Et en mars 2017, donc un an après ma première scène, je suis convaincue que ça y est, j'ai un spectacle. Tu le sens, le manque d'humilité. Je me dis non, mais je sais écrire et tout, il n'y a pas de souci. Et donc, je lance pour la première fois ce spectacle qui s'appelle « Oh et puis merde ». Parce que j'ai pas trouvé de titre, j'ai dit « Oh et puis merde », voilà, il n'y aura pas de titre.
C'est un
titre.
Très bon titre.
Donc, je le joue pour la première fois le 31 mars 2017, il me semble.
Il marche bien avec toi aussi, « Oh et puis merde ».
Ouais, c'est vraiment ça, je me suis dit « Voilà ». Et je suis convaincue que j'ai un truc, quoi, tu vois, que ça y est et tout. Et puis, juin 2017, alors là, on me propose... Donc Guillermo s'en va, Alex Vizorek s'en va, Laurence Bibot arrête aussi, la grosse chronique qui s'appelle Le Café Serré sur la radio La Première, donc toujours ce service public belge, c'est vraiment la grosse case, et on me propose de remplacer pendant l'été. C'est énorme hein, ce qui m'arrive, il fait vraiment... ça va très vite quoi.
En un an de temps, t'es propulsé quoi.
Et donc on me propose ça le 15, et le 17 juin, je fais ma première attaque de panique. Voilà.
Okay.
Donc ça a été vraiment ma tête qui a fait non, on va pas pouvoir y aller comme ça. Et là ma vie se désagrège mais complètement.
Donc se désagrège dans quel sens? C'est à partir de là que tu vas commencer à aller trouver des réponses à tes questions de...
D'abord il faut passer par le stade où je meurs hein, vraiment, que j'ai vraiment vécu comme une vraie mort, parce que je le dis dans mon spectacle, j'ai failli sauter du quatrième étage quand même. Et c'est pas genre je me suis dit tiens je sauterai du quatrième étage, sinon je suis passée de l'autre côté du balcon et j'étais à 10 doigts de crever quoi. Donc,
et c'est ton fils, c'est ça qui te passe?
Ouais, c'est mon fils qui me passe un coup de téléphone à ce moment là
c'est quand même la vie se joue à peu de choses hein.
Clair, les enfants ils viennent toujours bouleverser vos plans, c'est vraiment des petites merdes. Non, c'est ouf me dire que il a appelé à ce moment-là, quoi. Et sa voix, son... L'idée de plus jamais entendre...
Oui.
C'était ça, je l'entendais avec son petit halo, sa petite voix de merde, là, et je... L'idée de plus entendre sa voix, de plus l'entendre me raconter ses histoires, l'idée de plus le voir, de...
Ça te ramène un peu à la vie, quoi.
C'est impossible. C'est impossible, je suis tellement pas prête à plus voir mon fils, quoi. Et là, donc, d'un coup, vraiment, parce que ce moment où je passe par-dessus le balcon, je suis pas moi, quoi. J'ai l'impression d'être dans un état complètement second.
Dissocié, hein.
Ouais,
c'est comme ça qu'on appelle ça.
Non, mais bien
ça,
sûr, mais vraiment ça. Je compare ça souvent, c'est le moment où, tu sais que l'eau est froide dans une piscine, et le moment où tu vas sauter, il y a quelque chose qui se déconnecte dans ton cerveau. tu vois, tu sautes pas consciemment, tu sautes, et mais parce qu'il y a un moment, ton cerveau fait hop, la barrière, c'était vraiment ça. Et juste en entendant sa voix, je me suis rendu compte du côté tellement définitif
de sauter d'un balcon.
De ma mort. Et après, évidemment, tu réfléchis, tu dis, mon Dieu, qu'est-ce que j'ai failli faire, quoi. Tu dis, j'ai failli lui imposer une mère suicidée, un truc, tu dis, c'est pas possible. Et ça, c'était au mois d'août, donc j'étais, il revenait de vacances le 4 août, donc c'était au mois d'août.
Et cette attaque de panique, là, elle est provoquée par...
Par cette goutte d'eau qui fait déborder le vase. Je crois que mon cerveau a la fulgurance avec laquelle ça a commencé pour moi, ce qui à l'époque pour moi sont des grandes victoires.
C'était que des bonnes nouvelles.
Mais voilà, oui, c'est ça. Mais c'est trop, quoi. Il y a une pression en plus qui c'est vraiment, voilà, c'est le Jenga de trop, quoi. Tu vois, et donc tout s'effondre. Et là, c'est terrible parce que c'est une souffrance ouf. Je me dis, ma vie est finie. Donc. Pour ceux qui nous écoutent, voilà, je fais des crises de panique à répétition, très violentes. Donc à chaque fois, je suis convaincue que j'étouffe ou que je fais une crise cardiaque ou que je vais perdre mes moyens et me jeter par la fenêtre alors que c'est pas ça que je... Enfin, vraiment l'impression de devenir folle. Allez-y, googlez le truc, ça s'appelle un trouble panique. C'est une vraie affection mentale qui est très, très incapacitante. Et en plus, je suis toute seule, quoi. Je suis toute seule parce que mon mec de l'époque, il croit pas du tout que c'est une vraie maladie. Ça l'énerve. Il me dit, oui, mais tu te rends pas compte, tu fais de ma vie un enfer. Je vis des trucs affreux. Oui, il m'abandonne aux urgences parce qu'il en a marre d'être là pour mes caprices. Mais non, t'étouffes pas. Ça fait 15 fois qu'on te le dit. Et donc, il comprend pas du tout l'aspect maladie.
Alors que si tu t'étais coupé un bras, il aurait été là à fond.
Bien sûr, bien sûr.
Ah merde, peut-être pas.
Tu le surestimes. Non, mais tu vois, je veux dire, c'est ouf, quoi, parce que je suis toute seule et moi, je veux pas au début admettre que c'est psychologique, puisque c'est le principe du trouble panique. Mon cerveau me dit que physiquement, j'ai un problème. Et donc, moi, je vais chez 15 000 médecins, je passe tous les examens. Je me suis soumise volontairement à une coloscopie. Personne se soumet volontairement à une coloscopie. Tu le fais que si t'as pas le choix, d'accord? Si vraiment tu penses que t'as un problème au fond du cul, tu vois. Et moi, c'était même pas au cul que j'avais mal. J'avais du mal à respirer. Objectivement, un truc dans mon cul aurait pas pu m'empêcher de respirer. C'est te dire à quel point j'étais perdue.
On est bien d'accord pour avoir déjà fait une coloscopie que le plus grave, c'est pas la coloscopie, c'est la préparation à la coloscopie.
Mais oui, mais tout à fait. Non, mais tu vois, donc je cherche un petit peu comme ça des réponses.
Dans ton cul, donc.
Voilà, dans mon cul. Non, mais partout, je fais tous les examens et on me trouve rien. Et à chaque fois, on me dit, madame, c'est le stress. Non, putain, c'est pas le stress. J'ai une maladie, elle est dans ma tête. Et personne ne me dit. Aller voir un psychiatre. Tout ce que les médecins me disent, c'est le stress. Et mais tu peux pas te contenter de cette réponse. Ta vie, elle est en train de s'achever. Tu te réveilles et tu te dis, ok, aujourd'hui, je vais essayer de pas mourir. Tu t'endors avec, ok, je suis pas morte. J'osais plus dormir parce que j'avais peur de ne pas me réveiller. J'osais plus manger solide parce que j'avais peur de m'étouffer. C'est de l'ordre de la phobie. Les gens qui ont peur des phobies ridicules, genre des bananes, mais vous avez beau trouver ça ridicule, n'empêche qu'ils peuvent pas arrêter d'avoir peur des bananes. Il y a une raison à ça, et cette raison, elle est imprimée physiquement dans le cerveau quelque part, donc qui est le chef d'orchestre. Et donc c'est une catastrophe. Je pèse 44 kilos à l'époque, et voilà, il faut aller me voir maintenant. J'en pèse 52. Je suis déjà pas très 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 épaisse. Et donc ma vie s'arrête, quoi. Je sais plus aller bosser, je sais plus conduire. Moi qui suis en liberté dans ma voiture, qui adore écouter la musique et tout, je sais plus conduire. Je sais plus rester seule, même quand je suis pas seule, je fais des crises de panique non-stop où je me dis je vais mourir, il faut appeler l'ambulance. Et il y a une scène qui est emblématique dans ce trouble panique. Je suis à la maison avec mon mec, il est 3h du mat, et j'habite à 5 minutes de l'hôpital en voiture. Mais vraiment à 5 minutes chrono. Si tu penses que t'es pas bien, tu prends ta voiture, tu vas jusqu'à l'hôpital parce que t'as 5 minutes, t'y arrives et voilà. Là, j'appelle l'ambulance. Donc je suis convaincue que je suis en train de mourir. Sinon, j'appelle pas l'ambulance, je prends ma voiture et j'y vais. Donc je suis convaincue que je suis en train de mourir. J'ai pas réveillé mon mec.
Tu voulais pas le déranger ?
Je voulais pas le déranger alors que j'étais en train de mourir et que je pensais donc que là... Je me disais, je suis en train de mourir et j'ai pas réveillé mon mec. C'est ouf.
C'est ouf. Hein.
C'est ouf. Hein. C'est vraiment.
Mais bon, j'imagine que ça vient aussi de. Mais comme ça, il passait son temps à dire que c'était
ouais,
des caprices.
Ouais, c'est clair. Mais je suis convaincue que je vais mourir. Sinon, j'appelle pas l'ambulance. Sinon, je prends ma voiture et je vais moi-même.
T'es convaincu que tu vas mourir et en même temps, tu te dis peut-être c'est un caprice. C'est
non.
ouf. Hein.
Que lui se dit ça et ouais. que je veux pas le déranger et je veux pas que le dernier souvenir qu'il ait de moi, ce soit moi qui le dérange. C'est te dire à quel point je me mets de côté à ce moment-là, quoi. À quel point j'ai aucun amour propre. Ce type, c'est toute ma vie et ma vie s'arrête et ce type n'est pas là pour moi. Donc c'est chaud. Donc je perds tout. Je perds mon boulot. Je sais plus aller bosser. Je sais plus m'occuper de mon fils. Bah non, parce que j'ai trop peur d'avoir un accès de folie, de me suicider devant lui, de lui faire du mal. J'ai trop peur d'avoir une crise de panique devant lui. Et donc, je perds la garde de mon gamin et mon mec me quitte, quoi.
Mais t'as toujours pas, à ce moment-là, alors que ta vie est en train clairement de partir en couille, la réponse à d'où ça vient.
Non.
T'es convaincu. Est-ce que il y a un moment donné où tu te dis peut-être que je suis folle?
Oui, bien sûr. Oui. Et alors c'est terrible hein, parce que quand vous donc c'est une vraie phobie. Hein. Ça s'appelle la psychopathophobie. C'est la peur d'être fou. Et quand vous avez peur de devenir fou, vous devenez fou. Pour la simple et bonne raison que quand vous arrêtez de faire confiance à votre raison, c'est comme quand vous vous répétez un mot et que ce mot perd son sens. Vous voyez, vous dites mais tabouret, c'est chelou. Pourquoi on dit tabouret?
Pourquoi tabouret?
Voilà. Eh ben c'est exactement pareil. Je me disais ok. Si ça se trouve, il n'y a pas 5 minutes qui viennent de s'écouler. Si ça se trouve, ça fait une heure. Mais comme je suis folle, je ne m'en suis pas rendu compte. Si ça se trouve, les gens, là, je me suis inventé toute une histoire.
Bien sûr.
La peur d'être fou vous rend fou. Parce que vous perdez complètement le contrôle, enfin, le contact avec la réalité. Parce que vous ne vous faites plus confiance. Et faire confiance à sa raison, c'est une vraie chance, quoi. Et puis, ce qui se passe, c'est qu'au mois de septembre, donc 3 mois après... une souffrance épouvantable. Donc après cet épisode suicidaire, je me dis ok, le suicide c'est plus une option. J'ai pas le choix en fait. Il va falloir que je trouve un moyen d'aller mieux parce que je peux pas me suicider et je peux pas vivre comme ça non plus. Donc j'ai pas le choix quoi. Il faut que je trouve un truc. Et là enfin, je me décide à aller chez un psychiatre. Je dis voilà, Flo, t'es folle. C'est comme ça.
Ah oui, t'avais besoin de passer par ce stade-là.
Ah ouais, bien sûr. Je dis Florence, tu es folle. Tu as tout analysé physiquement, voilà. Donc maintenant, tu es folle, c'est comme ça. Tu vas peut-être aller en hôpital psychiatrique. Je ne sais pas à ce moment-là que fou, c'est pas un terme en médecine. Ça n'existe pas la folie en médecine. C'est des maladies bien, bien spécifiques. Et donc j'arrive chez le psychiatre en étant convaincue qu'on va me dire t'es bipolaire, t'es schizophrène, etc. Et j'arrive et je décris mes symptômes au mec. Je me souviens, j'ai regardé l'heure. Avant et après avoir fini, ça a duré 7 minutes. 7 minutes après avoir commencé mon récit, le mec me dit très calmement, mais oui, vous avez un trouble panique, ça se soigne parfaitement.
Waouh.
Et ce qui m'a aussi décidé à aller chez ce psychiatre, c'est j'ai fait une dernière grosse crise de panique en voiture. Énorme crise. Je suis convaincue que j'étouffe et je suis sur l'autoroute et je m'arrête sur l'autoroute et je cours sur l'autoroute pour faire signe à des voitures pour qu'elles puissent s'arrêter pour venir m'aider parce que je pense que j'étouffe et qu'elles puissent appeler les secours et tout parce que j'avais plus de batterie sur mon téléphone et donc je me vois en train de courir sur une putain d'autoroute et là je me dis ok, je viens de me mettre sérieusement en danger. Et encore une fois, je peux plus mourir quoi, j'ai pris conscience que mourir c'est fini, j'ai la petite voix de mon fils au téléphone, c'est plus possible quoi. Et donc, c'est pour ça aussi que je prends rendez-vous chez ce psychiatre. Et en 7 minutes...
Ouais, il te change la vie, là.
J'ai tout perdu. J'ai failli mourir. Ma vie a été un enfer pendant 3 mois où tous les jours, je me suis dit, je vais mourir, je deviens folle. Et en 7 minutes, on me dit, bah oui, ça existe, ça se traite avec des médicaments. Et une thérapie brève qui reconditionne le cerveau en fait et aide à sortir du cycle. Et je prends les médocs, c'est des antidépresseurs.
T'as de l'émotion là, les gens le voient pas, mais je sais pas si
ils
l'entendent.
C'est dur,
mais...
hein, c'est difficile, hein, parce que. Voilà.
Elle vient d'où cette émotion? C'est. Il y a ce truc de. Tu parles de 7 minutes là, il y a une forme d'injustice, c'est ça?
Ouais. Ouais, je suis en colère parce que avec tous les médecins que j'ai vus et tout ça, qu'il n'y en ait aucun, même aux urgences, quoi, où je suis allée. Alors oui, ils râlaient de voir ma gueule revenir toutes les... Et je peux comprendre, hein, mais pourquoi est-ce que personne m'a redirigée vers un psychiatre? Pourquoi est-ce que la santé mentale, même dans la médecine générale, est un tel tabou? C'est énervant, quoi. C'est énervant parce qu'il y a... Et puis, ce qui me touche beaucoup, c'est, je le sais, hein, que maintenant que j'en parle, j'ai beaucoup de messages de gens qui me disent, voilà, moi, j'ai ce trouble-là et je ne savais pas que c'était un trouble. Et depuis que je vous ai entendu parler, ben, grâce à vous, je suis guérie. Parce que j'ai été prendre ces médicaments, parce que j'ai eu ces 7 minutes. Mais je me dis, il y a des gens qui n'auront pas eu ces 7 minutes. Et ben, y a des petites meufs comme moi qui ont sauté du balcon, quoi. Et je trouve ça... ouais, ça m'émeut parce que... Et puis, je suis triste pour moi à l'époque aussi parce que... Personne ne devrait avoir à vivre ça, quoi. Parce qu'il n'y a pas de bienveillance envers les malades mentaux, il n'y a pas de... Il n'y a pas de gentillesse, de compréhension, d'empathie. Et moi, je l'ai vraiment vécu de plein fouet avec mes belles-sœurs qui me disaient, quand je les ai appelées, je leur disais, mais tu comprends pas, il a pas voulu venir avec moi aux urgences. Et ma belle-sœur, elle me disait, oui, mais c'est pas gay pour lui d'être aux urgences. Je disais, ah, oui, mais enfin, moi, je m'éclate pas non plus, en fait.
C'est une grosse teuf pour toi.
Oui. Oui, c'est ça. Non, mais moi, c'est génial. Alors vraiment, là, ouh, tu vois, je fais des fêtes au niveau anapathologie de l'hôpital. Ouhou, on fait des trucs et tout avec les bocaux, on met des petites lumières. Non, mais tiens, tu vois, quelle horreur de dire ça à quelqu'un, quoi. Et je suis en colère parce que je me suis fait beaucoup de mal aussi, de voir à quel point j'ai été un personnage secondaire dans ma propre vie. Moi, j'étais pas le personnage principal de mon film, j'étais un personnage secondaire dans le biopic, en l'occurrence, de mon mec de l'époque. Et si je m'étais pas convaincue que j'étais à ce point une merde et que les gens me faisaient une fleur en restant avec moi... En me disant, allez, pour une fois, quelqu'un veut bien de moi, alors que je suis bizarre.
Oh là là.
Ben. Ouais, alors c'est pour ça quand tu dis, ouais, tu t'es un peu affirmée et tout. Non, je me suis affirmée en surface, tu vois, de l'école, du harcèlement scolaire et tout ça. Mais en vrai, j'ai juste fait ce que je pensais devoir faire pour m'intégrer et pour avoir des amis et tout ça. Et donc. Donc non, et donc je prends ces antidépresseurs et les antidépresseurs, je voulais pas les prendre non plus parce que j'étais comme tout le monde, je connaissais pas le fonctionnement des antidépresseurs, je confondais les antidépresseurs avec le Xanax et tout ça qui sont pas du tout des antidépresseurs, je connaissais même pas le fonctionnement. Et là j'ai mon ami qui est neurologue et qui m'a dit, mais Florence, si t'avais un déficit en hormones thyroïdiennes, tu te supplémenterais en hormones thyroïdiennes. Il dit, là t'as un déficit en sérotonine qui cause tes crises de panique. Enfin, il y a une réponse chimique, il y a un problème chimique, en fait, tu vois. Donc, prends des antidépresseurs.
Vive le progrès.
Je les ai pris. 3 semaines après, j'avais plus de crise de panique.
Oh là là.
3 semaines après, voilà. Et là, j'ai commencé à remonter la pente. Hein. J'avais encore 2-3 crises, mais plus du tout de la même ampleur, etc. Donc, tout ça s'est remis. Donc, j'ai suivi une thérapie qui a été longue, qui a évidemment débouché sur une thérapie. Enfin, d'abord, la thérapie brève pour soigner le problème en lui-même. Et puis, la thérapie plus longue pour discuter d'un peu de tout ça. Donc, j'ai commencé à vraiment remonter la pente en 2018. Et puis... En mi-2019, là, j'ai commencé vraiment à être sur pied. Vraiment nickel.
Et tu sais toujours pas à ce moment que t'es autiste Asperger ou ça...
Ah oui. Alors ça, quand j'arrive chez le psychiatre qui me diagnostique, il a cette phrase. Donc il est un peu bourru en plus. Je l'ai pas revu après parce qu'il m'avait prescrit des antidépresseurs et j'étais fâchée et machin et tout.
Ah, okay.
Et je t'ai dit, mais il est nul ce psychiatre. Et il m'avait dit cette phrase. Il m'avait dit, mais vous êtes complètement autiste.
Et t'as pris ça comme une insulte ou...
Mais ouais, je me dis, mais de quoi il parle? Je dis, ok, je vais pas être en plus autiste sur le côté. Et il m'avait quand même filé l'adresse d'un neuropsy et tout ça. Donc, quand j'ai une amie, elle officiellement diagnostiquée autiste Asperger, qui m'a dit, je pense qu'il a pas tort, t'as vraiment des grosses caractéristiques. Alors là, j'ai pris les choses en main et je suis allée me faire diagnostiquer à ce moment-là. Donc, on est vraiment... c'est 2017, 2018, okay. Ouais, plus 2018. C'est en 2018 que j'ai mon diagnostic officiel. Et là, j'apprends que je suis autiste Asperger. Je savais qu'il y avait quelque chose qui allait pas. Je le savais. Bon, quand j'étais petite, enfin au lycée et à l'école primaire, on m'avait diagnostiqué HPI. Donc, on savait déjà que mon cerveau était... Il y avait une structure différente et tout ça.
Cerveau chelou.
Voilà, j'avais un cerveau chelou, mais pas... Et puis arrive de ouais 2019 où je janvier 2019 ça commence vraiment à aller de mieux en mieux. Et à partir de mi 2019 ce qui se passe d'abord, c'est que fin 2018, il y a un truc qui se produit dans ma vie qui est très chouette, c'est que je gagne le Vourir de Liège, qui est un gros festival en Belgique, vraiment, qui est fait par les Taloche, les frères Taloche, et qui est vraiment un super festival, et je le gagne. Donc on est en octobre 2018, et donc je sais qu'en 2019, je vais voyager partout, enfin, au Québec, je vais partir à Morges, en Suisse, à Cannes, ici, pour venir jouer, donc c'est vraiment un gros truc dans ma carrière, c'est ça, c'est cette victoire-là.
Ça te donne confiance ?
Ouais. Et donc j'arrive en janvier 2019 et là pour la première fois de ma vie je me regarde et je me dis meuf, t'es une ouf en fait.
Yes.
Mais vraiment, je me dis meuf, je me retourne sur ce que j'ai, ce que je viens de traverser. C'est vraiment sale parce qu'ils sont en train en plus de passer la putain de musique au piano là de Tiersen, tu vois le tululu tululu.
Oui.
Vraiment des enculés. Et donc je me retourne et je me dis mais je vois vraiment la moi petite qui voit la moi adulte et qui fait genre mais
ouais.
Meuf t'as géré quoi. Et à partir de ce moment là je crois que ouais, je deviens un peu invincible, je me dis c'est quoi en fait, j'en ai rien à foutre. Et donc moi qui avais peur de l'avion, peur de voyager, peur de tout, je pars au Québec, je prends cet avion sans aucun problème, je pars en Irlande sur des îles isolées où il n'y a pas d'ambulance, il n'y a rien et tout. C'est vraiment 2019, c'est l'année où je prends ma liberté quoi. Je pars toute seule, moi qui détestais marcher, je prends mon chien, je pars tout le temps dans la nature avec elle, moi qui détestais être dehors, je suis non-stop. Et donc vraiment 2019, c'est l'année de ma renaissance quoi, où là d'un coup, et puis en plus à Bruxelles ça commence à bien marcher, ça commence vraiment à bien marcher, bam, Montreux qui m'appelle, on dit voilà, on va faire partir à Montreux.
Montreux Comedy Festival.
Grâce à Léo Dombois qui est maintenant mon attaché de presse et un peu ma directrice artistique et ma mère et plein de trucs à la fois. Et c'est ouf quoi. Et en plus ma vidéo à Montreux elle fonctionne quoi. Et mon spectacle à Bruxelles commence à marcher à fond. 2020, ça va être une année top. Ça va être l'année de ma gloire. Et puis, il y a le Covid. Donc, c'est pas l'année de ma gloire. Même malgré ce Covid, il y a Teva qui m'appelle, la productrice de Piquante, qui me dit, voilà, j'ai vu ce que tu as fait à Montreux. Est-ce que tu veux participer à l'émission ? Et je rencontre ces meufs merveilleuses. Mais merveilleuses.
Il y a toute la clique là, il y a Nicole Ferroni, ouais, il y a Christine Béroux,
Laura Demange, Thaïs Vaucard, Elodie Pou qui est là de temps en temps. Et je leur dis, je suis désolée, je suis bizarre. Et elles me font, ouais mais non, si ça t'embête pas, on va t'aimer quand même. Et j'ai Léo qui est là et je lui dis, je suis désolée mais je suis bizarre. Elle me dit, ouais mais t'inquiète, ça va faire un spectacle génial et moi j'aime bien que tu sois bizarre. Et donc 2020, c'est l'année où je me rends compte que... C'est ce que je disais, quoi, que la pièce de puzzle que je suis, elle va quelque part, en fait. Je suis une pièce de puzzle toute seule, à qui il manque tout le reste du puzzle. Et d'un coup, quelqu'un fait « Ah, mais attends, regarde, tu vas là. » Et ça, c'est...
C'est canon, hein.
Extraordinaire, extraordinaire. Et donc, ça s'enchaîne un peu. Je joue à La Petite Loge à Paris. Il y a le bureau des auteurs de Canal+ qui...
La Petite Loge qui, pour les gens qui ne connaissent pas, ah, est vraiment un théâtre de...
16 mètres carrés.
De 12 places.
25 places quand c'est complet. Mais c'est l'incubateur à talent.
C'est génial, bien sûr.
Voilà, il y a quand même Gaspard Proust, Marina Rollman, Paul Mirabel qui sont passés là. Fin...
Vous pouvez toucher le fond du théâtre limite en tendant le bras. Quoi.
Voilà, non, c'est vraiment tout petit, mais c'est une chance incroyable de jouer là-bas. Et donc ce spectacle, ben on le travaille pour parvenir à... C'est Léo, hein, Léo Dombois qui arrive à me convaincre de parler de mon autisme, de parler de mon épreuve de maladie mentale et de... Et je dis, mais ça va pas aller, les gens ils vont me jeter des trucs, tu vois.
Il a tellement raison. T'es à poil quand t'es sur scène, tu vois. C'est génial.
Et en fait les gens ils me jettent pas de trucs et ils m'encouragent et on me félicite de prendre la parole et de... Et donc, ouais, et aujourd'hui...
Tu mets tellement en vulnérabilité. On ne peut pas faire autrement que de connecter avec toi. Je crois, vraiment.
Je voulais... En tout cas, c'était important d'être un être humain et d'arrêter de jouer ce personnage de la meuf un peu sexy, un peu badass, un peu... ouais, ok, je suis un peu badass, machin, tout ce que
aussi.
Tu veux. Mais j'ai fini de taxer mon hypersensibilité comme quelque chose de négatif, finalement. Et donc, et puis fin 2021, fin des vacances 2021. Alors là, c'est le clou du spectacle. France Inter qui m'appelle. Je n'y crois pas. Pendant une semaine, je dis à Léo, donc mon dash press, je dis non, mais ils vont rappeler, ils ont fait une erreur, ils vont se rendre compte que c'est pas. Et je n'y crois tellement pas que j'ose en parler à personne, en fait, parce que je suis sûre que. Ils vont. Et donc, quand j'ai Nagui au téléphone, il me dit bonjour Florence, c'est Nagui, je suis là, Nagui.
Nagui des brosses à dents.
Non, mais Nagui, c'était. Pour moi, c'était un mini-cams, quoi, tu vois, quand j'étais petite. Mais non, mais c'est vrai, tu vois, oui, donc. C'est quand même. T'es là, Nagui des mini-cams.
Tu as vraiment dit ça ?
Non, mais oui, on en a parlé après. Ouais. Et donc voilà, et ça, c'était vraiment la consécration, parce que France Inter, c'était un rêve depuis que je fais de la radio. En plus, cette petite gourde de Fanny Ruet m'a grillé la priorité engagée sur France Inter avant moi, la pute. J'adore Fanny Ruet.
Fanny Ruet, ta compatriote.
Oui, on s'aime beaucoup. On a juste ce rapport où on aime bien s'envoyer des fions à la gueule parce qu'on est comme ça. Mais non, et donc, ouais, c'est. Et là, bon, les putes, la coke, la gloire.
Non, mais. Bien sûr.
Les léopards dans mon salon.
Mais bien sûr.
Les pans qui m'accueillent à l'entrée dans mon jardin. Donc, voilà. Et donc, ouais, mon premier pas en France. Et puis le Métropole maintenant. Donc, c'est un vrai parcours, quoi. Où à chaque fois, à chaque étape, je me suis dit, ça va pas assez vite, j'y arriverai jamais, ça va s'arrêter là, j'ai l'impression d'avoir atteint le summum de ce que je pouvais faire et tout. Et à chaque fois, en fait, maintenant, quand je regarde mon parcours, je vois à quel point chaque marche a été une marche qui m'a mené à la marche suivante.
Ouais, c'est clair. Et tes chroniques, je te le disais juste un peu avant, mais je trouve que tu viens taper. Alors, bon, ton spectacle, effectivement, tu viens parler de santé mentale et pour moi, c'est d'autant plus important d'en parler là post-Covid, ça va être la merde pour la planète entière après cette pandémie, quoi, tu vois.
Ouais.
La guerre en plus là, la
non,
peur,
mais tout va bien.
L'angoisse, machin. Non mais c'est que des trucs qu'on se raconte dans la tête en plus, c'est terrible, ouais. Hein, toutes ces peurs, enfin en tout cas pas pour les Ukrainiens qui en prennent plein la gueule, etc. C'est pas.
Ouais.
Mais nous, en tout cas, en France et en Belgique, pour l'instant, on la vit pas, mais on l'a dans la tête.
Si Vladimir, il avait fait du stand-up.
Ouais.
Hein, ah au bah, lieu de.
C'est sûr.
Voilà. Si Vladimir, il avait fait des blagues sur, voilà, écoutez, moi j'ai tendance, je sens, parfois la nuit, je rêve que je suis un gros dictateur et que je balance des bombes sur les gens, ça m'angoisse un peu. Je pense que ça vient de la fois où j'ai perdu mon chien moustache et que mon papy a dit, on n'en serait pas là.
À mon avis, il doit avoir des problèmes avec sa maman.
Moi, je pense qu'avant de devenir dirigeant, on t'oblige à faire une psychothérapie, en fait. On te dit, d'accord,
ça
tu veux
bien.
Te présenter aux élections présidentielles, tu nous montres que tu as fait une thérapie longue.
Tiens, d'ailleurs, je postais ça sur mon Insta. Je disais, mais je crois qu'en fait, une fois que tu as fait de thérapie, c'est impossible que tu aies envie d'accéder au pouvoir.
Ou alors, c'est vraiment que tu es un idéaliste et que tu veux
oui.
y arriver, quoi. Tu
es Martin Luther King, quoi.
Voilà,
vois,
mais
quand même.
Mais pas dans ces conditions-là.
Mais
non,
je crois même
sûr.
Que quand tu es un idéaliste, il faut,
ah bah,
comme
sûr.
Tu dis, manger tellement de merde pour en arriver là qu'il
faut
vraiment avoir envie.
Je pense qu'il faut renouveler le système de démocratie.
Oui.
Déjà, moi, je pense qu'il faut. C'est horrible ce que je suis en train de dire. Moi, je pense que le droit de vote.
Oui, je t'ai entendu dire ça.
Mais je pense que le droit de vote devrait être un devoir et devenir un droit une fois que t'as accompli un certain nombre de choses. Moi, je remets tout à zéro. Idéalement, il faut rééduquer tout le monde pour que les gens puissent voter en conséquence, en fait. Parce que oui, la démocratie, c'est un principe génial. Est-ce qu'on peut tirer cette phrase ? La démocratie, c'est un principe génial.
C'est bien, c'est une bonne idée.
Mais démocratie. Oui, mais évidemment, c'est ça qu'il faut faire. Mais le problème, c'est que si t'es sur un bateau qui coule, tu vois, et que t'es avec 15 teubés et que t'en as 13 qui proposent, tu vois, de, je sais pas, mettre une paille dans le trou du bateau et aspirer l'eau, tu vois, pour que ça. Bah, tu coules, en fait, tu vois. Et donc, la démocratie, c'est une arme géniale à partir du moment où tout le monde est éduqué. À partir du moment où la priorité de la société, c'est l'éducation. C'est pas compliqué. Enfin, alors, bien sûr, ça l'est plus que ça. Mais je veux dire, j'ai joué à SimCity. Je sais comment ça marche, d'accord, de diriger un. Non, mais t'as des piliers de notre société, c'est quoi ? T'as l'éducation.
C'est sûr.
La santé, le social et l'économie. Voilà, c'est les quatre piliers de notre civilisation comme on la voit actuellement. Et c'est les quatre trucs où on foire, quoi. Regarde, la santé, c'est une catastrophe, la crise l'a montré. L'éducation, c'est une catastrophe, la crise l'a montré. Tu vois, le social en France, bon, voilà, mais on n'y est pas encore. On a encore des gens qui sont dans la pauvreté et tout.
C'est sûr.
Sachant que quand le social prend cher, l'éducation et la santé prennent cher aussi. Et l'économie, on n'investit pas comme on devrait, puisqu'on est dans une économie qui nous mène à notre perte. On se foire sur les quatre choses essentielles du... ça ne va pas. Et malgré ça, on continue à voter, on continue à faire voter des gens, alors que c'est des gens qui vont voter pour empirer la... Alors je dis pas qu'il faut une dictature éclairée ou quoi, je dirais jamais ça, bien sûr que la démocratie c'est un principe sacré, mais on donne pas les moyens à la démocratie d'être la grande dame qu'elle pourrait être, quoi. Quand vous vous retrouvez aux États-Unis et qu'il y a un choix entre deux personnes, deux partis, aussi, avec toute la tendresse que j'ai pour les démocrates, mais c'est pas normal.
Florence Mendes présidente, quoi, j'ai envie de te dire.
Putain, non, t'imagines ?
Ce serait marrant. J'imagine ton discours d'investiture, quoi. Salut, bande de connards.
Écoutez-moi bien. Non, mais je veux dire...
Ceci dit, moi... un peu plus de blagues dans la campagne présidentielle, ça ferait plaisir.
Wow, il y en a quand même deux, trois.
Il y en a des blagues. Hein.
Toutes celles qui commencent avec François Fillon. Tu vois. Non, mais bien sûr qu'il y a des blagues, mais moi, je pourrais jamais faire de la politique parce que je suis beaucoup trop éthérée, détachée du monde, pas organisée et tout, mais Alexandria Ocasio-Cortez, elle dit des trucs un peu comme ça aussi, et elle est extraordinaire, cette meuf. Extraordinaire. Mais il y a un problème de on a toujours fait comme ça, et c'est pour ça que Bernie Sanders, il n'est pas passé non plus, parce que les gens l'estimaient qu'ils étaient trop extrêmes. Mais à partir du moment où on renverse les... Le problème aussi, je trouve, de la politique française, en Belgique, c'est moins ça, mais la politique française, c'est un spectacle, en fait, aussi. Et il y a des trucs, par exemple, bon, la Belgique, politiquement, c'est ce que c'est le bordel, et parfois, on n'a pas de gouvernement et tout, mais en Belgique, il y a quand même un truc... À l'égard de l'extrême droite pure et dure, par exemple, le Front National belge, il s'est fait rétamer parce qu'on les invite jamais sur les plateaux télé. Maintenant, avec les réseaux sociaux, la donne change un peu, mais genre, on débattait pas avec l'extrême droite sur les plateaux télé.
Mais comme il y a 10 ans en France, en vrai.
Mais putain, c'est essentiel.
Ça a changé en quelques années, là.
Et sachant qu'en plus, l'extrême droite, si elle passe, ce seront les premiers, on le voit, dans tous les régimes autoritaristes, fascistes, d'extrême droite, le premier truc qui prend cher, c'est la liberté d'expression. On est en train de mettre la liberté d'expression au service de gens qui la supprimeront dès qu'ils en auront l'occasion. C'est dans le racisme expliqué à ma fille, c'est Tahar Ben Jelloun, il a cette phrase où il dit « on n'utilise pas la tolérance contre la tolérance ». Et c'est exactement ce qui est en train de se passer. On tolère des trucs intolérables sous prétexte qu'on doit être tolérant. En fait, non. Moi, quand sur ma page, j'ai des connards qui se plaignent parce que je les laisse pas venir dire leur merde sur l'immigration, l'antivax, les antivax et les trucs comme ça. Et ils me disent « Ah, tu nous laisses pas nous exprimer, c'est la liberté d'expression ». Je fais « Non, mais en fait... J'ai pas à subir...
C'est un droit, c'est pas un devoir.
Alors déjà, et puis la liberté d'expression, ça constitue simplement le fait de pouvoir dire des choses sans être inquiété. Ça a jamais été inventé pour que Jean-Marie Connard puisse arriver et commencer à dire de la merde sans que personne lui dise « Jean-Marie, ce que tu dis, c'est de la merde ». Voilà, moi, t'as une liberté d'expression, super, moi aussi, c'est ma liberté de te dire que ce que tu dis, c'est de la merde et que j'ai pas envie de lire ton truc et que du coup, je te bannis, quoi. Donc... Si vous rentrez dans un restaurant et que vous commencez à insulter les gens, bon, mais c'est le droit aussi des gens de se lever et de partir, en fait. Et donc, ouais, ça me fait chier. C'est un discours qui me fait chier en disant « Ah, il n'y a qu'une seule façon de penser, les woke, les machins et tout. Ah, à une époque, on pouvait dire ça. » Non, on n'a jamais pu le dire, en fait. Si à une époque, pendant la ségrégation raciale ou l'apartheid, il y avait des gens qui n'étaient pas racistes, c'est que tous les autres n'ont pas d'excuses, en fait. S'il y a une époque, il y a eu une personne pour dire « c'est pas la bonne chose à faire, humainement, c'est pas ce qu'on devrait faire, c'est pas la bienveillance et tout ça », tous les autres perdent leur excuse.
Oui, bien sûr.
Voilà. Et j'en veux pas aux gens de revenir. Par exemple...
Le cocktail, petit cocktail, là.
Voilà. Ou alors une branlette vraiment, vraiment réussie, vraiment rythmée, tu vois, là. Non mais tu vois, je veux dire, j'en veux pas aux gens, tu vois. J'ai un pote qui était super homophobe quand il était jeune. Il a été élevé par des protestants pas ouais. forcément fun et tout. Ce pote, je lui en veux pas d'avoir été homophobe. Mais ce pote, un jour, il s'est rendu compte, il s'est dit mais j'étais super con en fait. Donc à partir du moment où il y a des gens qui peuvent changer d'avis, je veux plus l'excuse de l'âge, l'excuse de c'était différent. Ça a jamais été ok de faire des blagues racistes. Ça a jamais été ok d'être misogyne, homophobe. Ça a jamais été ok. Jamais, jamais, jamais. Et maintenant, on se rend compte que ce qui était pas normal, c'était de laisser dire ce genre de choses. Et ce terme woke me fait rire. Moi, je me qualifie pas de woke. C'est simplement un être humain qui en a marre d'en mettre plein la gueule aux autres êtres humains. Et quand les woke disent aujourd'hui l'antiracisme, ça n'a plus de sens, et qu'en Ukraine, on laisse des gens noirs crever sous les bombes alors que les gens blancs peuvent, eux, s'échapper, qu'on vienne encore me dire qu'il n'y a pas de racisme. Oh, il n'y a plus de racisme. C'est vraiment ça, c'est la définition la plus pure du racisme. On estime que ta vie a moins de valeur que la mienne parce que toi, t'es noir et que moi, je suis blanche. Qu'on vienne encore me dire qu'il n'y a plus de problème de... Donc woke, c'est juste être un être humain décent en fait. C'est juste pas être un oui, gros puis, fils de trou du cul.
En fait,
quoi.
À la base, aux États-Unis, c'est vraiment ce truc, ça veut dire éclairé quoi. Tu vois, c'est genre tu fais en sorte d'être
et
un peu conscient.
Et de t'éveiller un peu, c'est voilà. ça. Tu prends conscience qu'il y a conscient tout le monde n'a pas la même réalité que la tienne et que finalement ta réalité à toi, un, elle est peut-être pas si pourrie et deux, elle encourage aussi. Et j'ai pas de leçons à donner à personne. Hein. Je m'habite chez Zara. Il y a plein de trucs auxquels. Tiens, ça m'arrive de pas trier mes déchets. Enfin, tu vois, il y a plein de trucs. Et je me dis, Florence, t'es vraiment une grosse connasse.
Mais non, pas mais obligé d'être aussi dur.
Mais
que,
non, mais non, mais c'est vrai.
Il y a
plein de trucs sur lesquels où je me dis, mais moi aussi, je me foire sur plein de trucs. Mais au moins, tu le reconnais et t'essayes. Tu vois, alors je le sais. Par exemple, tu vois que écologiquement, je suis naze. Eh ben, j'ai rendu ma bagnole. J'essaye de voter écolo. J'essaye de filer de la thune à des assos de temps en temps. Est-ce que c'est pour soigner ma conscience? Peut-être, mais c'est aussi pour me dire ok, je me foire sur des trucs, mais j'essaye aussi de faire ma part d'une autre manière. Donc voilà, on n'est pas parfait, on peut pas être engagé dans toutes les causes du monde tout le temps. C'est pas possible. Mais putain, essaye au moins de faire une mini part. Et ouais, la part du colibri et tout. Alors que Pierre Rabhi, il est homophobe, donc enfin nique-toi. Mais
c'est vrai que ça.
Non, mais ça c'est dingue aussi, quoi. Enfin, ah oui. Que les gens encensent le gars en disant mais.
Oui, après moi je trouve ça cool, tu vois, que on puisse se rendre compte qu'en fait ce mec il a fait plein de trucs bien et qu'en fait à côté de ça,
oui,
il est...
mais bien sûr.
Parce qu'en fait on est tous des êtres humains.
Bien sûr.
Voilà, on a tous des aspects négatifs et des aspects positifs.
Mais alors qu'on les érige pas en héros quoi.
Bien sûr.
Tu vois, c'est important.
Enfin, en tout cas qu'on soit capable de montrer les deux
voilà,
aspects.
Voilà, et de dire alors c'est vrai, voilà sur ce plan-là il a quand même dit des choses très importantes et il a inspiré positivement des gens. Mais l'humain fait partie de la nature. Et tu peux pas prétendre défendre la nature si tu dis que l'homosexualité c'est contre nature. Parce que l'humain fait partie de la nature. Si l'homosexualité existe chez les humains, c'est que ça existe dans la nature. Et puis comment est-ce qu'on peut encore utiliser l'argument contre nature avec tout ce qu'on a fait depuis le début contre la nature et qui nous a permis de survivre et de nous élever au rang d'espèce number one avec une catastrophe à la suite, hein, on est d'accord. Mais, tu vois, donc tout ça me... Les gens ont tellement peur du changement et de... Et alors, ce qui est drôle aussi, c'est que tous ces gens qui s'opposent à ce changement de société, alors que la société, depuis le début, la civilisation humaine n'est qu'une succession de changements. Du paléolithique au néolithique, il y a eu des changements. On n'a fait que évoluer les mentalités tout le temps. Pourquoi est-ce que maintenant, il y a encore une évolution des mentalités et ça fait flipper les gens? Mec, t'es le produit d'une évolution infinie des mentalités. Tout ce que tu es aujourd'hui, tout ce que tu penses être le bon truc aujourd'hui, ça l'était pas il y a 100 ans, ça l'était pas il y a... Tout ça, c'est... Voilà, on est comme ça, on évolue, on change, on s'adapte. C'est la clé de l'évolution, l'adaptation. Et donc, quand des gens me disent « Ah non, les woke, on peut pas changer, ils veulent tout changer », t'es un putain de pinceau de Darwin avec ton gros bec qui va crever parce que tu sais pas aller chercher les fruits avec ton petit bec. Eh ben vas-y, reste sur ton île avec tes pinceaux à gros bec là et casse pas les couilles aux pinceaux à petit bec.
Alors si vous avez adoré cet entretien, c'est un aperçu du cerveau de Florence.
Pardon,
voilà.
Non mais ça n'a aucun sens ce que je raconte.
Ne t'excuse pas de parler dans ce micro. Tu es la bienvenue. Tu es là pour ça. Je te le rappelle. En tout cas. Merci beaucoup pour ce moment passé ensemble, c'était vraiment génial.
Mais merci, j'ai l'impression d'avoir beaucoup trop parlé, je suis désolée.
Alors c'est le concept même de l'interview.
D'accord, ok, c'est bon. D'accord.
C'est, moi ça me va très bien, si tu venais là et qu'en fait tu t'attendais que je parle, ça serait chiant.
Oui, vraiment, c'est vrai que ce serait vraiment un intérêt. Oui.
C'est pas vraiment l'objectif. Quoi,
mais au fond ça va être frustrant parce que personne ne parle jamais de toi, alors raconte
t'inquiète.
Quoi. Comment...
Ah bah je t'enverrai un épisode si tu veux, je raconte ma vie, tu vois, je suis passé pendant l'épisode 100 voilà. Et tout, tu vois, j'ai joué le jeu dans l'autre sens. Merci beaucoup en tout cas, c'était super.
Tu nous raconteras ta coloscopie et la prépa de coloscopie.
Quel génie, j'en ai fait un article.
Mais si tu veux, on fera un podcast, ma meilleure coloscopie.
Putain, meilleure coloscopie,
meilleur souvenir de colo.
Ah là là.
De colonie de vacances, non.
De préparation de coloscopie.
Exactement.
Oh, quelle joie. En tout cas, tu joues tous les jeudis soirs au Métropole.
Ouais,
à Paris.
21h30.
Tu joues aussi dans plein d'endroits. Les gens peuvent te retrouver sur Insta où tu mets la plupart de tes.
Et sur Facebook aussi.
Sur Facebook.
Parce que je suis old school.
Oui, t'as raison.
J'ai un site aussi, florencemendes.be/agenda. Et là, vous pouvez retrouver toutes les dates. Je vais passer à Lille bientôt, à Marseille, à Tignes, enfin à plein d'endroits. Donc,
trop bien. Je mettrai les liens. Tu sais.
À Jouy-en-Josas. Non, je sais pas.
On peut faire.
Il y a une ville qui s'appelle Jouy-en-Josas.
C'est vrai, ouais, c'est vrai, bien sûr. C'est là où il y a le campus d'HEC, si je ne me trompe pas.
Je ne sais pas.
Voilà.
Jouy-en-Josas, je trouve que c'est génial comme. Parce que longtemps j'ai appelé ça Jouy-en-Josette, donc ça me faisait rigoler. Voilà.
Merci Florence, on va s'arrêter là-dessus. C'était,
d'accord.
C'était ta meilleure vanne.
Merci beaucoup.
Merci beaucoup pour votre écoute. Avant de nous quitter, si vous avez aimé ce podcast et cet épisode, merci de lui mettre un commentaire sur Apple Podcasts et 5 étoiles de préférence. C'est le meilleur moyen de le faire connaître. Vous pouvez faire comme Macha Chose qui a écrit « Comme toujours avec les podcasts de Fab Florent, on a l'impression d'être une petite souris. Les invités sont intéressants, tout comme leur parcours de vie. On rit, on s'interroge, on apprend et on apprend aussi sur soi. Merci Fab, tes podcasts sont inspirants. » Eh ben merci beaucoup, ça fait plaisir. Et si vous voulez faire comme elle, vous vous rendez sur Apple Podcasts et vous cherchez Histoire de succès directement dans votre appli ou sur votre ordinateur. Merci beaucoup à vous et rendez-vous jeudi matin à la même heure à partir de 6h du matin dans votre appli de podcast pour un nouvel épisode d'Histoire de succès.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Want to join a film club that has real frank discussions, talking about films that you actually want to watch?
Well, then look no further, because we are Frank Film Club with me, Maisie Williams. And each week we watch a film and then come together and obsess over it, or sometimes absolutely slate it. Either way, there's always a lot to say. And the films that we pick range all the way from like 90s and noughties classics, all the way up to new releases that are coming out every single week. And sometimes we get our listeners to pick for us.
And we all work in the film industry, don't we, ladies?
Indeed.
So we really love to look at specifically how a film was made.
So if this sounds like your bag, then come and have a listen to Frank Film Club. And remember, absolutely everyone is welcome in this club.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.